Gloire à Dieu. Comme j'ai dit au début de la réunion, aujourd'hui, on va mettre l'accent sur le fait que c'est la fête de la Pentecôte. Comme vous le savez, il y en a qui l'ont fêté il y a une couple de semaines, la fête de Pentecôte. Puis comme je dois le dire, c'est la fête de Pentecôte qu'il y a eu il y a quelques semaines, c'est la fête déclarée par les catholiques. La religion catholique, ils ont changé la manière de procéder pour la fête de Pâques et la fête de Pentecôte. Ils ont changé la date de Pâques, ils ont mis ça pour que ça tombe tout le temps un dimanche pour Pâques, eux autres. Puis c'est pas ça que la Bible a dit du tout. Je vous ai enseigné que ça se fiait selon le calendrier lunaire. La fête de Pâques, c'est le 14 du mois de Nissan, c'est au printemps à chaque année, mais c'est le calendrier que Dieu a choisi, puis la date que Dieu a choisi. Puis la fête de Pentecôte, c'est 50 jours après le premier sabbat de la fête de Pentecôte, de la fête de Pâques. Fait que quand il y a la vraie fête de Pâques biblique, 50 jours suivants, la première journée après 50 jours, C'est la fête de la Pentecôte. Pentecôte veut dire 50. C'est la fête de la moisson. Puis le titre du message aujourd'hui, je vais vous parler de la Pentecôte, c'est l'envoi de l'Esprit de Dieu. C'est ce jour-là que Dieu a choisi pour répandre son Esprit avec effusion sur toute chair. Sur tous ceux qui s'approchent de Dieu, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. C'est une fête incroyable. Dieu avait déjà décidé de faire cette fête-là dans l'Ancienne Alliance. La fête de la Pentecôte existait déjà, mais c'était la fête de la première moisson. Dans le calendrier des Juifs, vous savez que la Pâque, c'est au printemps. Suite après ça, la première journée après la Pâque, il y avait la présentation de la première gerbe qui poussait. Puis 50 jours après, il y avait la première moisson. Ou ce qui ramassaient leur première récolte. Puis cette journée-là, c'était la fête de la Pentecôte. Puis le monde devait se réjouir de la première grande moisson de l'année. Puis ils en ont plus qu'une. Puis ça, c'est une fête de la moisson, mais du début de la saison, puisqu'il y a d'autres récoltes. Puis il y avait aussi une fête de moisson à la fin de la saison de l'été. Ça veut dire qu'il y avait deux fêtes de moisson pour les Juifs. La Pentecôte, c'était la première, 50 jours après Pâques. Puis cette fête-là, c'était une fête de Dieu. C'est Dieu qui a décrété les dates d'après sa volonté. C'est pour ça que moi, je paye sur cet accent-là que c'est faut se fier au calendrier de Dieu. Puis la fête de Pentecôte, cette année, elle va tomber le mercredi qui vient. Ça va être la vraie journée de la fête de Pentecôte. Fait que, si on veut se réjouir, c'est de souligner ces choses-là, puis se rappeler que c'est une fête de réjouissance pour notre moisson. Si on a le ventre plein aujourd'hui, c'est à cause c'est Dieu qui a pourvu, puis il mérite qu'on lui donne la gloire pour les moissons. Mais, Dieu il a choisi que cette journée-là, c'était aussi une fête prophétique. Vous savez qu'est-ce que vous comprenez, j'espère, ce que je veux dire quand c'est une fête prophétique, c'est que Dieu, quand dans l'Ancienne Alliance, quand il décrétait des événements ou il décrétait des dates, il y avait des messages prophétiques annoncés à cause de ces décrets-là qui annonçaient quelque chose qui était pour arriver plus tard. Comme la fête de Pâques. C'était à la libération du peuple juif en Égypte. Ils ont été libérés de l'esclavage par le sang de l'agneau. Ils ont été épargnés de l'ange exterminateur. Mais ça avait un message prophétique que Jésus, il est mort la journée de Pâques. Puis ça nous permet d'être épargnés du jugement éternel. C'était prophétique. Mais la fête de Pentecôte, la fête de la première moisson, c'était aussi un message prophétique que Dieu voulait établir cette fête-là pour annoncer quelque chose dans le futur qui était pour arriver. Ça faisait partie de la quatrième fête du printemps que Dieu voulait nous annoncer un message à travers cela. Puis cette fête-là a été fêtée pendant des millénaires. Depuis que ça a été donné, là, 2000 ans avant Jésus-Christ, par Moïse, qui a reçu la révélation d'établir ce fête-là. Les Juifs l'ont fêté pendant des milliers d'années. Puis là, Jésus est venu. Puis là, après ça, c'est les apôtres puis les chrétiens qui ont fêté et les Juifs qui fêtent le jour de la fête de Pentecôte depuis 2000 ans. Ça fait 4000 ans que cette fête-là est installée. Puis Dieu avait un message pour nous là, aujourd'hui, qui est encore un message valable. Puis vous allez comprendre la beauté de cette fête-là en regardant tous les passages qu'on va voir aujourd'hui. Comme je vous disais tantôt, les premiers disciples, cette journée-là, la journée de la fête de Pentecôte, ils ont vécu une expérience extraordinaire, une expérience miraculeuse. Puis cette journée-là, ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. La Bible a dit qu'il était 120 dans la chambre haute en train d'attendre selon ce que Jésus avait annoncé. Mais avant d'arriver là, je vais vous expliquer un peu les prophéties. Tout a commencé dans l'Ancienne Alliance, comme je vous disais tantôt. Il y a des prophéties écrites dans l'Ancien Testament qui annonçaient qu'il viendrait une effusion de l'Esprit-Saint, où ce que le Saint-Esprit s'est répandu sous plein de monde qui pourrait le recevoir sa planète pendant un temps déterminé par Dieu dans cette prophétie-là. On va aller lire cette prophétie-là, c'est dans Joël, chapitre 2, le verset 28. C'est fort comment est-ce que Dieu annonçait des choses des milliers d'années avant, puis ils sont arrivés exactement dans le timing que Dieu avait décidé. Il nous dit dans ce passage-là, « Après cela, c'est Dieu qui parle, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Il faut bien comprendre que dans l'Ancienne Alliance, il y avait juste quelques personnages qui étaient remplis de l'Esprit, qui naissaient de nouveau, qui recevaient le Saint-Esprit. Juste quelques-uns. Tandis qu'après que Jésus soit venu, après que le Messie soit venu, ça a permis l'effusion de répandre le Saint-Esprit sur toutes les familles, les jeunes, les vieux, les serviteurs, les servantes. Tout le monde pouvait le recevoir. C'est ça qui était la beauté de la chose. Puis là, il ajoute dans sa prophétie, je ferai paraître des prodiges, parce que Dieu, à travers son Saint-Esprit, il se passe toutes sortes de miracles, de signes, puis de prodiges. Des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Puis là, il donne des signes dans l'atmosphère, dans les airs. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Là, on parle du retour de Jésus-Christ. Fait que là, l'effusion de l'Esprit est promise pendant le temps de la grâce, avant que Jésus revienne, jusqu'au jour que Jésus revienne. C'est ce qui est écrit ici. C'est avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est avant l'enlèvement que l'Esprit est répandu, jusqu'à là. Puis dans cette période-là, au verset 32, il clôt avec une promesse, « Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Le fait que Dieu répande son esprit dans cette période spécifique-là, qui est la période de grâce, à partir du temps de Jésus jusqu'à temps que Jésus revienne, c'est le temps de la grâce, puis c'est le temps de recevoir l'esprit, puis quiconque demande à Dieu d'être pardonné, il va être pardonné. Amen. Gloire à Dieu. On est encore dans la période de grâce. Jésus est parvenu. C'est encore le temps de demander pardon puis de recevoir le Saint-Esprit. Alors, quiconque invoquera le nom de Yahvé sera sauvé. Le salut sera sur cette montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Puis on voit vraiment que c'est un appel. C'est Dieu qui appelle au salut. Autant on le sait qu'on a été convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même qui nous a fait comprendre, puis on répond à son appel en l'acceptant, puis en le recevant, mais c'est lui qui a commencé à faire les premiers pas pour nous amener à comprendre. Fait que le temps de la grâce, il est encore... on est encore dans le temps de la grâce, puis dans la possibilité d'être pardonné, puis d'être sauvé, puis de recevoir le Saint-Esprit. Cette prophétie-là, ça annonçait une effusion de l'Esprit qui n'était pas encore arrivée avant que Jésus arrive. Il a fallu que Dieu mette en place les événements pour qu'on puisse savoir comment que ça va arriver. C'est là qu'il a mis en place Jean-Baptiste. Il a appelé Jean-Baptiste à commencer à prêcher. Jean-Baptiste il a commencé à présenter par qui cette promesse devait s'accomplir. Parce que la promesse était là, mais comment est-ce que ça va arriver? Il fallait qu'il y ait des événements qui se mettent en place. C'est Jean-Baptiste qui a été choisi par Dieu pour être celui qui mettait en place les choses pour annoncer que l'effusion du Saint-Esprit s'en venait. Il a envoyé Jean-Baptiste prêcher qu'il viendrait après lui, Jean-Baptiste qui prêchait ça, qu'il viendrait après lui, celui qui distribuerait le Saint-Esprit. Dans Matthieu 3, 11, ça nous dit, Jean-Baptiste qui parle, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je suis pas digne de porter ses souliers. » Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Fait que Jean-Baptiste a commencé à préparer le terrain pour la venue du Messie, parce que c'est lui qui a annoncé aussi que celui qui verra l'Esprit descendre, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Puis Jean-Baptiste a commencé à annoncer que Jésus, c'était l'agneau de Dieu. Puis en plus, c'est lui qui baptisera d'Esprit Saint. Parce que la promesse de recevoir l'Esprit Saint, tout le monde l'attendait. Il y avait juste quelques prophètes qui l'ont reçu. Puis certaines personnes qui ont été nées de nouveau, qui marchaient en communion avec Dieu dans l'Ancien Testament. Les autres, ils l'avaient pas, mais c'était promis que une multitude le recevrait. Puis les gens l'attendaient. Puis là, le verset 12, dans ce passage-là, l'autre verset qui vient, « Il a son van à la main en parlant du Messie. Il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Jésus était aussi annoncé comme celui qui ramasse puis qui sauve, et celui aussi qui va juger et condamner. Jésus a été déclaré chef et juge des humains sur cette planète. Dans ce passage-là, on voit, dans le message de Jean-Baptiste, il dit, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Quand on parle du mot « baptiser », ça veut dire « revêtir ». La même chose que « baptiser d'eau ». On descend la personne dans l'eau pour qu'elle soit couverte d'eau. Mais Jésus veut nous baptiser du Saint-Esprit, qu'on soit revêtu du Saint-Esprit comme si on serait coulé dans le fond de l'eau. Qu'on ait du Saint-Esprit tout autour de nous autres. Puis il l'a fait. On va le voir dans des passages. Il l'a fait à tous ceux qui sont nés de nouveau, mais le revêtement de puissance, il le fait à ceux qui le cherchent. Parce qu'on n'est pas toujours dans le rempli du Saint-Esprit. On marche souvent la tinque à moitié, puis peut-être la tinque, peut-être pas la moitié remplie. Mais ça, on va voir ça un petit peu plus loin. Dans ce passage-là, il dit, il va vous revêtir du Saint-Esprit et de feu, puis en même temps, il dit qu'il va sauver, il va rassembler son blé, il va amasser son blé, ça veut dire, en sauvant ces gens-là, puis il va brûler les autres dans la paille. Il va brûler la paille dans le feu qui s'éteint point. On voit qu'il y a des gens qui vont être revêtus du feu pour le jugement. Fait que nous, ce qu'on veut, ce qui vient de Dieu, la puissance qui sauve. Ensuite, Jésus, lui, lui-même a promis qu'il enverrait le Saint-Esprit à ses disciples. Dans Jean 15, 26, il nous dit, c'est Jésus qui parlait à ses disciples, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père? » On voit que la promesse de l'Ancien Testament, c'est grâce à Jésus ça peut arriver. Non seulement Jésus a accompli ce qui était nécessaire en mourant sa croix pour qu'on puisse être pardonné, mais en plus, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Et dit, « Lorsque sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, c'est Jésus qui a soufflé ses disciples pour qu'ils reçoivent l'Esprit, puis c'est Jésus qui a envoyé la Pentecôte à la Pentecôte d'être revêtu de la puissance d'en haut. » Et dit, « Je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père, puis il rendra témoignage de moi. » On voit que c'est Jésus qui est en train de parler, puis Jésus est le distributeur du Saint-Esprit. Si quelqu'un aujourd'hui veut recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu t'en parles à Jésus. C'est lui qui est mort de nous pardonner, c'est lui qui nous permet d'entrer au Père, c'est lui qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit, c'est lui aussi qui nous l'envoie. Fait que si on veut le Saint-Esprit, pas le choix de passer par Jésus. Comme Jésus a dit, « Nul ne vient qu'au Père que par moi. » Et je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On n'a pas le choix d'aller à Jésus. Suite à sa résurrection, Jésus a apparu pendant 40 jours à ses disciples et leur expliqua les choses du royaume de Dieu. Puis là, c'est grâce à Jésus que les disciples ont compris que tout le reste de ce qui s'est passé. Jésus leur a dit quelque chose de spécial, une promesse. Il leur a dit d'attendre, Jésus a dit d'attendre ce que le Père avait promis. Fait que la promesse de l'Ancien Testament dans Joël, de répandre l'Esprit, le Père l'a annoncé par les prophètes, puis là il dit, attendez, la promesse va arriver. Les disciples devaient être dans une position pour le recevoir. Il dit, allez pas, partez pas là pour aller faire ci, ça, puis courir d'un bord puis de l'autre dans d'autres choses. Attendez à Jérusalem, restez là jusqu'à temps que vous l'ayez. Qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont entendu, puis qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils attendaient? Ils priaient. C'est le secret. Tu veux être rempli du Saint-Esprit, faut que tu demeures dans le contact avec Dieu, en prière, puis il y a d'autres versets qui disent en louange. Reste dans connexion, puis là, tu vas voir, ça va tomber sur toi. C'est ça que les disciples ont fait. Dans Actes 1, 4, 5, Jésus, ça dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Restez là, là. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Attendre la promesse. Combien est-ce qu'il y en a ici qui attendent des promesses? Il y en a plein dans la Bible des promesses qui sont pour nous. Est-ce qu'on est en train d'attendre une ou des promesses? C'est ça que Jésus nous dit. Tu vas avoir de quoi dans ta vie? Attends-la. Demande-la. Reste devant Dieu et apprends à en parler avec Dieu de cette promesse-là. Il l'a promis, attends-la, elle va venir. Il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, ben Jésus lui avait dit, lui-ci, que les disciples étaient pour recevoir le Saint-Esprit, que Jésus était pour le distribuer, le Saint-Esprit. Il dit, « Que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean, il a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Fait que pendant, là, Jésus leur a apparu 40 jours, fait que les dit ça, il leur a dit ça quasiment avant de monter devant eux à l'ascension. Puis selon les calculs, on sait que qu'entre la mort de Jésus, puis Jésus a apparu 40 jours, puis la Pentecôte, c'est 50 jours après. Fait qu'il y a à peu près 10 jours d'attente que les disciples ont eu en prière, dans la chambre haute, à prier, puis à parler ailleurs que de prier ensemble. Puis ça nous dit dans Actes au début qu'il était environ 120 personnes réunies dans la chambre haute en train de prier, puis d'attendre la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit, d'être baptisés du Saint-Esprit. Ils l'avaient reçu, le Saint-Esprit, les disciples. Parce que quand Jésus leur a parlé, après qu'ils soient ressuscités, ils étaient dans le jardin, ça dit, Jésus souffla sur eux, puis ils reçurent le Saint-Esprit. Ça le dit dans le texte. Ils l'avaient reçu, mais ils n'avaient pas encore été revêtus de la puissance. Puis c'est ça que Dieu leur a dit. Hein? Jésus leur a dit, vous allez recevoir une puissance dans Actes 1-8, le Saint-Esprit qui va venir sur vous, puis là, vous allez être mes témoins. C'est cette puissance-là qu'on parle, le Saint-Esprit qui vient sur toute chair, qu'afin que les fils et les filles prophétisent, puis les jeunes gens, puis les vieillards, ont des songes, des visions, etc. La manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque les disciples étaient réunis en prière, le jour exact de la fête de la Pentecôte, tout à coup, ils reçurent le Saint-Esprit avec puissance, puis avec plusieurs signes surnaturels. Des choses qui n'arrivent pas d'habitude, mais des choses sont arrivées là pour qu'ils soient vraiment convaincus que le Saint-Esprit venait d'arriver. Dans Actes 2, chapitre, au verset 1, puis... Le jour de la Pentecôte, on voit que ce fête-là, Dieu, il dit, c'est la première moisson. On comprend pas encore le parallèle à 100%, c'est la première moisson. Mais Dieu a choisi ce jour-là pour envoyer son Saint-Esprit. Vous allez comprendre c'est quoi la première moisson dans les autres versets plus loin. Mais là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Puis là, dans les versets un peu plus assez en avant, comme tantôt je vous ai dit, il est environ 120. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ils sont dans une pièce, là, dans une chambre haute en train de prier, puis un gros vent, un gros bruit de vent qui commence. Puis il remplit toute la maison, ce qui était assis. Ça, c'était déjà une action surnaturelle. Puis si ça arriverait ici, on aura une preuve à 100% que c'est de Dieu, parce qu'il n'y a aucun châssis qui rouvre. Fait que si ça arriverait ici, on s'en apercevrait. Ça dit que le vent, comme le bruit comme un vent impétueux, il remplit toute la maison où il était assis, puis là, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Là, il y a eu pas juste du bruit, il y avait de quoi de visible, des langues de feu qui ont descendu sur les 120 personnes en même temps qui étaient là. Ça leur a apparu, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Fait que la promesse était pour tout le monde, même s'il y avait des gens qui étaient des serviteurs ou des esclaves, pouvaient leur savoir s'ils s'approchaient de Dieu avec foi. Le fait que le bruit s'est fait, puis que la vision là, de voir des langues de feu se poser, qui touche chaque personne qui sont là, ça a fait quelque chose dans chacun à l'intérieur d'eux. Ça dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pas juste nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Là, la puissance de Dieu les a remplis, comme l'es-tu voué dans l'Ancien Testament. Un personnage rempli du Saint-Esprit, il prophétisa. Mais c'était ça, mais pour les 120 en même temps. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, puis ils se mirent à parler en d'autres langues. Encore un autre miracle. Parce que c'était tous des Galiléens, des gens qui vivaient en ce coin-là, parlant l'araméen, peut-être le grec. Mais là, ils se sont mis à parler en d'autres langues. C'est une autre action surnaturelle. Fait qu'il y a eu du bruit, il y a eu des visions, puis il y a eu aussi la manifestation de la puissance par d'autres, de s'exprimer dans une autre langue que tu connais même pas, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez-vous, quand Dieu si Dieu le veut, là, quand Dieu te touche, il peut se passer des actions surnaturelles comme il le veut. C'est lui qui décide. Ça le dit un peu plus loin. Un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, le distribuant chacun en particulier comme il le veut. C'est le Saint-Esprit qui décide de faire quelque chose dans la vie d'un de ses disciples, d'un des croyants de Jésus, en Jésus. C'est une manifestation extraordinaire. La promesse de Joël venait de commencer à s'accomplir. C'est pas que la promesse s'est accomplie. Ça a commencé à s'accomplir. Parce que dans la promesse, ça s'étend après Jésus jusqu'au retour de Jésus. Fait que la promesse est encore valable aujourd'hui pour s'accomplir. Tout de suite après, parce que là, pour se mettre dans le contexte, c'est la fête de la Pentecôte, cette journée-là. Les disciples encore, pendant la journée de la fête, en train de prier puis d'attendre. Ils auraient tout pu être décidés. Hey, on s'en va fêter avec tout le monde, c'est la fête de la Pentecôte. T'en vas dehors, tu chantes des chants avec tout le monde. Tu danses, tu t'excites. Non, c'était pas le temps de fêter. C'était le temps de prier puis d'attendre la promesse. C'est ça qui était le plus important. Ils ont prié, ils l'ont reçu. Puis là, il y avait bien du monde dehors, il était à Jérusalem, puis ce monde-là venait de tous les pays d'autour pour venir fêter la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Puis là, les gens s'étaient rassemblés de d'autres pays, d'autres juifs, de d'autres pays qui parlaient d'autres langues. Ils se rassemblaient quand même à Jérusalem, peu importe quelle langue qu'ils parlaient, si on est en Afrique, ils sont nés en Russie, peu importe où ce qui était né, en Asie, les Juifs arrivaient, faisaient un long voyage une fois par année pour aller à la fête à Jérusalem. Là, il y avait des milliers de personnes dans la fête. Puis quand le bruit qui s'est fait, le vent, puis tout ça, là, puis là, le monde qui parle, les 120 qui parlent fort en langue dans la pièce, là, c'était une pièce au deuxième étage, c'est la chambre haute. Puis le monde de dehors, ils ont tout entendu ce bruit-là, puis se sont tous rassemblés proches de cette maison-là. Fait que pendant que tout le monde parlait en langue, tout le monde était excité, rempli du Saint-Esprit, bon, Pierre, il sort dehors, sur le perron, ça devait être un perron au deuxième étage, ça faisait une belle place pour aller prêcher à toute cette foule-là. Il commence à lui prêcher à propos de Jésus, puis que tout le monde se repente, puis qu'il pourra recevoir le Saint-Esprit. Puis là, le monde se demandait qu'est-ce qui se passait. Là, c'est une gang de gars sous. Parce que là, mais il n'était pas sous, il est que 9h le matin. Il était déjà en prière à 9h le matin. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit, mais les autres qui voyaient ça, ils ne comprenaient pas. Pierre leur a expliqué, c'est la promesse de Joël qui vient de s'accomplir, qu'on a reçu le Saint-Esprit. Tout de suite après, quand Pierre il annonçait le message de repentance puis de la foi au Messie, ça dit que 3000 personnes qui furent sauvées puis qui reçurent le Saint-Esprit. Dans Actes 2, 38, Pierre y finit son message en leur disant « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. » Ça, c'est l'engagement, le baptême. « Montrez que vous êtes engagés à suivre Jésus pour le pardon de vos péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il leur a dit, ça c'est la promesse de Joël, le Saint-Esprit, il vient de descendre, repentez-vous, engagez-vous, soyez baptisés, puis vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis là, il leur a dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Puis par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse! » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Une moisson, une campagne d'évangélisation faite par le Saint-Esprit, parce que les apôtres n'étaient pas prêts à ça, faite par le Saint-Esprit, une première moisson d'âmes. Et je vous disais tantôt, la fête de la Pentecôte, c'est la fête de la première moisson. 3000 se sont convertis en s'engageant à suivre le Seigneur à la journée même de la fête de la première moisson. Dieu, il avait les signes prophétiques, là. Ah non, puis nous autres, on peut lire ça, puis voir ça, comme faire l'analyse de tout cela par après. Aujourd'hui, on comprend comment Dieu est précis dans ces événements. Puis il va être précis aussi pour le retour de Jésus, puis tout ce qui a été annoncé comme signe, ça va tout s'accomplir comme qu'il les a annoncés. Depuis plusieurs semaines qu'on parle comment est-ce que Dieu avait annoncé des choses à propos de Jésus, puis les choses se sont accomplies exactement pareil. La même chose pour la venue du Saint-Esprit, annoncée dans l'Ancien Testament, puis tout s'est obtenu grâce à l'œuvre de notre Messie, le Seigneur Jésus-Christ. La fête de la Pentecôte d'aujourd'hui nous rappelle le début de l'Église du Seigneur. Il y avait un petit groupe 120 qui priait pour avoir le Saint-Esprit, puis après ça, 3 000 qui étaient là, puis après ça, tu vois, dans les Actes, ça montait à 5 000. Le monde, là, c'était une assemblée à peu près comme chez Claude Houd, 4 000 personnes là, qui sont là en train de prier le Seigneur, louer le Seigneur, entendre les enseignements, puis ça dit que les disciples, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, d'infraction du pain et dans les prières. Les premiers disciples, l'Église du Seigneur, se réunissaient 7 jours par semaine à faire des réunions ensemble pour se booster dans le Seigneur, pour se maintenir remplis du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur lui rassemble les gens de toute race et de toute langue pour former son corps, l'Église, lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que tout ce joue-là, là, le Messie qui a accompli la mort sur la croix pour que le salut soit accessible, puis l'effusion de l'Esprit, là, faut que tu reçoives l'Esprit pour être membre de son Église, pour être sauvé, pour être connecté avec Dieu, parce que la connexion se fait, c'est Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en toi, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau, commencer un nouveau départ, le Saint-Esprit rentre dans ta vie, puis c'est lui qui, t'es un sauvé parce qu'il t'es réconcilié, il rentre en toi, puis là il commence un œuvre pour faire un ménage dans ta vie, pour t'émonder, pour que tu arrives à porter du fruit dans ta vie, puis que ton fruit demeure. Tout se fait par Jésus puis le Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, ça dit, en parlant de tous les chrétiens, « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Voyez-vous, le corps qu'on parle là, c'est le corps de Christ, l'Église. Quand tu viens à Jésus, première chose qu'il fait, il te pardonne, puis il te donne son esprit qui te revêt, qui fait que quand Dieu te regarde, il voit Jésus. Tu as reçu la justice de Christ, mais tu as reçu aussi le baptême du salut, qui fait que tu es sauvé et greffé au corps. Ça ne veut pas dire que tu as le baptême de puissance, tu as le baptême pour le salut. Il y a 4 sortes de sens pour le mot baptême dans le Nouveau Testament. Mais là, aujourd'hui, ce que je vous dis là, il y a le baptême de l'Esprit pour le salut. Puis c'est ce qui était annoncé dans la promesse de Joël, qui répandrait son Esprit. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ils sont baptisés de l'Esprit, mais pour le salut. Mais il y a aussi le revêtement de puissance quand tu es rempli du Saint-Esprit, qui est une autre expérience. Mais ça n'empêche pas que tu es quand même sauvé en invoquant le nom du Seigneur. Il faut bien faire la différence, parce que des fois, les gens, ils ont pas de don surnaturel, mais sont quand même sauvés, sont quand même revêtus de Christ pour le salut, pour être greffés au corps. On est tous des membres de son corps. Tu sais, on mène de temps en temps. Et nous avons tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Fait qu'on est tous en train de boire à l'esprit. Que tu sois un prophète, que tu sois un simple disciple qui passe le balai, on est tous greffés, puis on est tous abreuvés par le Saint-Esprit. Alléluia. 2000 ans plus tard, l'expérience de recevoir le Saint-Esprit est encore une promesse de Dieu valide. On est à l'an 2024, on est 2000 ans après Jésus-Christ, puis sa promesse est encore valide parce que je l'ai reçue. Puis il y en a d'autres qui l'ont reçue. Vous l'avez toutes reçue. Si vous êtes né de nouveau, vous l'avez reçue. C'est naître d'en haut, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Si, il faut que vous ayez cette foi-là, sinon vous n'avez pas la confiance que vous êtes encore sauvé. Moi, vous appelez encore à faire la prière de repentance tantôt. Des millions de personnes naissent de nouveau chaque année en recevant le Saint-Esprit. Des vies sont sauvées et transformées par la puissance du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs aussi qui marchent dans la puissance des signes, des prodiges et des miracles. Comme cela est écrit dans Marc 16, 17, ça dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal, puis ils vont imposer les mains aux malades, les malades seront guéris. » Ça dit pas que tout le monde manifeste tous les dons. Paul le dit. C'est « À un est donné par l'Esprit » de parler en langue, à l'un est donné le don des guérisons, à l'un est donné le don d'interprète, à l'un est donné le don des miracles. C'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Fait que là, aujourd'hui, c'est pas dire « Oh, j'ai pas le don de prophétie, je suis pas sauvé », pas du tout. T'as accepté Jésus, t'es pardonné, t'as reçu l'Esprit, ta vie a commencé à changer, tu marches avec le Seigneur, même si t'as pas les dons, t'es sauvé pareil, t'es greffé au corps, t'es pardonné, t'as revêtu Christ pour ton salut, pour être greffé au corps. Les dons de puissance, c'est donné comme le Saint-Esprit les ajoute à qui qu'il veut. Dans ce passage-là, ça dit pas, quand que les 3000 se sont convertis, ça dit pas que les 3000 ont parlé en langue. Les 120 dans la chambre haute, ça dit qu'ils ont tous exprimé en langue. Mais les 3000, ça dit pas, mais ils ont invoqué le nom du Seigneur, puis ils ont été sauvés, qui fait partie aussi de la promesse de Joël. Puis Dieu les a fait naître de nouveau, puis leur vie a commencé à changer. Fait que la promesse de la Pentecôte, c'est une fête de la première moisson pour sauver une multitude par la suite qui s'est développée à travers les temps jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on est encore dans les mêmes promesses, profitant des mêmes promesses. Pour ceux qui l'ont déjà reçu, ben vous, savez-vous qu'il y a d'autres sortes d'expériences qu'on peut vivre avec lui? Oui. La Bible en parle, ces mêmes expériences-là qui sont écrites dans la Bible, dans le Nouveau Testament, que les apôtres ont vécu, on peut les vivre. Ils sont encore valides, ces expériences-là aussi, d'être remplis du Saint-Esprit, d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, de prendre autorité et chasser des esprits. Faut travailler avec Dieu, se laisser diriger par lui, puis c'est lui qui nous conduira dans les œuvres que lui a décidées. Pour aller plus loin, par exemple, si on veut aller plus loin puis être rempli du Saint-Esprit, mais ça nous le dit dans Éphésiens 5, 18, de chercher à être rempli de l'Esprit en s'entretenant par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Fait que tu peux être un disciple qui n'a pas de don, puis te mettre à louer le Seigneur, là tu vas être rempli de l'Esprit. Puis là, c'est pas juste une minute, là. Tu prends du temps dans la prière, puis dans la louange, puis à un moment donné, l'Esprit va arriver, tu vas être rempli, puis tu vas vivre des expériences avec le Seigneur. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on peut expérimenter les divers signes que Dieu a promis. La manifestation du Saint-Esprit est différente pour chaque personne, mais l'important, c'est de le recevoir, puis ensuite grandir en lui. Parce que quand tu viens au Seigneur, là, tu deviens enfant de Dieu. C'est super. Tu deviens enfant de Dieu parce que Dieu t'adopte. Mais il veut pas que tu restes enfant. Qui aimait ça, rester à la couche toute sa vie? Puis de pas grandir. Dieu nous appelle à devenir des hommes et des femmes de Dieu, pas juste des enfants. Il appelle toute son Église à être des hommes et des femmes de Dieu. Il y a une maturité, même pas rester adolescent dans le Seigneur, parce qu'il y en a qui... La maturité, elle prend du temps. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps, que voulez-vous? Mais il y en a que ça prend pas de temps. 3 ans, ils sont déjà pasteurs. J'en connais un. Fait que c'est d'aspirer à grandir. Aspirer à avoir plus du Saint-Esprit. Vouloir maturer. Vouloir devenir un homme comme les modèles qu'on a de Jésus, de Paul, des autres apôtres, de Philippe, d'Étienne, des hommes de foi, puis ils prêchaient la parole. C'est sûr qu'Étienne a mal fini. On veut pas devenir exactement à 100% comme Étienne, mais marcher dans la ferme assurance. Il a vu la vie du Seigneur debout dans une vision. Tout ça, c'est promis que ça pourrait être accessible pour tous ceux qui sont revêtus de la puissance d'en haut. Comme je l'ai dit au début de la réunion, c'est pas une option, ça, de naître de nouveau. C'est une obligation si tu veux être sauvé. Dans Romains 8, 9, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Fait que si vous n'êtes pas sûr de l'avoir, ben mettez-vous à genoux, demandez pardon au Seigneur, dites-y que vous croyez qu'il est mort pour pardonner vos péchés. Puis, il va vous pardonner, il va vous donner le Saint-Esprit, puis la nouvelle vie va commencer. Pourquoi on peut dire ça avec assurance? Parce que c'est écrit dans la Bible, puis la Bible est vraie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pour être sauvé, tu reçois le Saint-Esprit. Il n'a pas dit qu'on va tous être des apôtres Paul, ça c'est sûr. Moi, je suis pas l'apôtre Paul, je suis pas lui, je suis Daniel Poulain avec le Saint-Esprit, puis la dose d'onction que Dieu m'a donnée, j'essaie de vivre avec, puis de vous en faire partager. C'est la même chose pour chacun de vous, puis vous pouvez en avoir plus parce que ça peut monter. Cherchez à être rempli du Saint-Esprit. Le seul moyen pour recevoir le Saint-Esprit, c'est d'aller à Jésus pour demander pardon, pour qu'il nous change notre vie. Dans Actes 3, 19, c'est ce que les apôtres prêchaient au début. Dans un autre verset, comme que tantôt, il dit « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, puis que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Jésus est mort pour nous pardonner, puis si on croit qu'il est mort pour nous pardonner, nous pouvons le recevoir comme au jour de la Pentecôte. Amen. On va faire une prière pour ceux qui ont écouté ce message puis qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. C'est le seul moyen pour commencer cette nouvelle vie avec le Seigneur, c'est d'y demander pardon. Fait qu'on va demander pardon au Seigneur. Je vais vous conduire dans cette prière-là. Faites cette prière sincèrement. Dieu y est là, puis Dieu vous entend. Tournez votre esprit vers Dieu, puis dites-y, « Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu puis Dieu vous a pardonné. Vous êtes sauvés. Cette nouvelle vie-là est commencée. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Lisez la Bible. Priez. Puis cherchez à être rempli du Saint-Esprit, puis le Seigneur va vous conduire, puis il va vous guider jusqu'au jour où il va venir vous chercher. Amen.